première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Bijoux et lumière. Je le comprends un peu moins, sauf si vous avez des reflets dans les matières que vous utilisez.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Paschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
Alors moi, je m'appelle Ornella Lavacara.
Elle, lui.
Chargée de communication au WCCBF. Alors le WCCBF, pour rappel, c'est le World Craft Council de Belgique francophone, c'est-à-dire le Conseil des métiers d'art. Nous, on se charge de faire la promotion des artistes en région de Wallonie et de Bruxelles dans le domaine des arts appliqués d'expression contemporaine.
Situé à Mons.
Situé à Mons.
Rue de la Trouille.
C'est ça, dans le site des anciens abattoirs. Et nous, nous sommes dans le bâtiment qui correspond à l'ancienne étable.
Avec Ornella Lavacara, Gaëlle Cornu, Claire Lavandome, Chila Kemenzaï, Henriette Michaud, Cédric Jadin. Et à propos de l'ouvrage édité par l'édition Art et Héritance et qui lui est consacré, Marie-Paul Art. Sculpture, peinture, orfèvrerie. Ornella Lavacara, je vais rencontrer une série d'interlocutrices.
Oui,
la lumière. C'est une exposition qui est vraiment en rapport avec la lumière. Donc le L est vraiment la lumière qui passe, qui transperce le bijou, ou qui est reflétée par le bijou. Voilà, c'est les notions que Claire Lavandome, dans son choix de pièces, a voulu transmettre.
Vous allez voir évidemment Gaëlle Cornu, la directrice du World Craft Council, donc de notre galerie.
Et qui est Claire Lavandome ?
C'est une artiste créatrice de bijoux, qui est aussi professeure à Bruxelles, et qui crée des pièces avec beaucoup de sensibilité et de poésie.
Je ne suis pas la seule à l'origine. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'OSCC qui avait, donc le World Craft Council, qui avait fait une proposition à tous ses membres associés de proposer quelque chose autour de ce que chacun souhaitait. Et donc, on a proposé, j'ai proposé avec l'accord d'Henriette Michaud, une exposition autour du bijou et la notion de lumière.
Quand vous dites Ornella Lavacara, elle, lui, de qui s'agit-il ?
Alors je pense que Claire vous répondra mieux que moi.
Claire Lavandome, qu'entendez-vous par le bijou et la notion de lumière ?
Ben en fait, une des fonctions du bijou, c'est aussi la lumière. Et donc là, l'exposition s'est construite, enfin la proposition d'exposition au départ, c'était construite autour de la notion de bijou et lumière, mais j'ai choisi les participants en proposant lumière et des prépositions. Lumière sur, lumière dans, lumière pour, lumière avec... sans lumière, enfin pas rien que des prépositions, mais des mots courts comme ça. Et donc j'ai choisi les participants comme ça. Et bon, la fonction du bijou, c'est aussi la lumière, hein. Qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit plus classique, l'éclat, enfin, il y a différents types de lumière. Et donc c'est comme ça que la proposition s'est faite. Éventuellement par l'intention, par le matériau, par l'idée, par... Oui, il y a différentes façons de pouvoir le faire. Oui. 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 Il n'y a pas que l'or, hein, mais...
Vous verrez les commissaires et scénographes, c'est-à-dire Claire Lavandome, qui est artiste du bijou contemporain, qui a créé cette sélection à l'occasion de l'exposition Elle, lui, et qui est également exposante ici, dans cette exposition.
Il n'y a pas que l'or qui donne l'éclat, enfin, je veux dire, il y a... dans l'exposition, on le voit bien, hein, c'est vraiment des lumières parfois... même noir, hein, enfin des notions d'intériorité plus noire. Moi, par exemple, j'ai mis une coupelle avec de l'encre noire dedans. Et j'ai mis aussi un bijou ou l'autre en or. Et donc, c'était vraiment l'idée de la lumière.
elle, lui, par Thierry Genico. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Nous sommes devant un ouvrage, Marie Pollard, intitulé « Marie Pollard, sculpture, peinture, orfèvrerie », paru à l'édition Art et Héritance et coécrit par Ariane Fradcourt et Jacques Toussaint.
Oui. Multidisciplinaire, comme disait Pierre Culot. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le fond, c'est quand même la sculpture. Hein. Je suis sculpteur de formation et ça reste mon vrai métier. Mais bon, maintenant, j'ai peint beaucoup, je dessine beaucoup. Et c'est en tout cas plus léger en poids.
Et Claire Lavandome, dans cette émission, j'ai pu rencontrer Marie Pollard.
Personnellement, je ne la connais pas.
Vous êtes sculptrice, vous avez étudié à Lacan.
Oui.
Vous avez, à un moment donné, travaillé des objets portables.
Ah oui. Là, je n'étais plus étudiante à ce moment-là. J'ai fait plusieurs collections à Paris pour Paco Rabanne. J'ai travaillé d'abord un peu pour Courrèges, un peu pour Louis Ferraud. Et alors je suis tombée sur Paco Rabanne qui a vraiment eu un accueil excellent à mon travail parce qu'il m'a dit « on se ressemble ». C'était gai à entendre, quoi, hein, parce qu'il me racontait qu'il avait commencé par créer des chaussures. Donc il disait c'était également des objets, c'était pas encore des robes. Et alors, à chaque saison, il me laissait le champ libre, je lui apportais une vingtaine de bijoux, enfin si on peut appeler ça des bijoux, j'appelle ça des bijoux sculptures. Il prenait tout, et alors il les adaptait à ses créations en tissu, parce qu'alors il était vraiment devenu couturier. Ah, c'était merveilleux, j'allais au défilé, aux premières et tout ça. C'était une belle époque. C'était loin, je devais chaque fois me taper Paris. Et puis, la direction a un petit peu changé. Ils m'ont demandé, je ne sais pas si je le dis dans le livre, ils m'ont demandé de venir m'établir à Paris pour que je leur sois sous la main immédiatement. Je dis non, écoutez, non, j'ai ma vie en Belgique, je suis artiste en plus des bijoux que je faisais. Et alors, notre relation s'est arrêtée là, parce que je n'ai pas voulu aller habiter à Paris, quoi. C'est tout. Mais sinon, la relation a toujours été très bonne. Un drôle de milieu, hein, qui, au début, m'a un peu effrayée, parce que je ne connaissais pas le milieu de la haute couture, et des originaux, mais bon, ça ne me gênait vraiment pas. Voilà, ça c'est mon aventure avec les couturiers parisiens.
Je l'ai connu, en fait, je pense, par le biais de Bernard François, à un moment donné. Si j'ai bon souvenir.
Mais je pense à des créateurs de bijoux qu'on connaît. Je pense à Émile Soupli, qui est aussi sculpteur,
c'est juste. On ne fait pas des bijoux comme bijoutier. Hein. Pas du tout. On pense le volume d'abord. Parfois, c'est tellement extravagant que ce n'est plus tellement portable. Ou c'est très lourd, puisque nous sommes sculpteurs. Mais ça reste intéressant, je dirais, pour le monde du bijou, même si ce n'est pas souvent porté. J'ai beaucoup de personnes qui ont acheté mes bijoux pour les mettre dans des vitrines. Pour les mettre dans des vitrines parce que ce sont plutôt des objets, des beaux objets. Il y a une manière d'attacher ou de pendre, mais ça reste... Ça reste un petit objet de sculpteur. Oui, voilà. Oh, j'avais une énorme admiration pour Émile Soupli. Il faisait d'ailleurs sa belle exposition à Senef, en témoigne. Hein. C'était un ami. Il est mort récemment. Enfin, puisque vous l'avez connu, vous le savez. Hein.
Et Marie Pollard, comme le fut Émile Soupli, et comme bien d'autres créateurs, je pense à Thierry de Bontrider, sont aussi sculpteurs.
Oui. Thierry est sculpteur, Émile Soupli était sculpteur, Marie Pollard aussi. Ouais.
Et c'est votre cas aussi ?
Non, pas du tout, moi. non, pas du tout. Moi, je viens des beaux-arts, mais pas du tout de la sculpture. D'ailleurs, mon travail personnel est plutôt lié à quelque chose de la deuxième dimension. Je suis rarement dans le côté sculptural, même si c'est un objet que je comporte. C'est quand même une forme d'objet. Je travaille beaucoup avec quelque chose d'assez bidimensionnel, je dirais. C'est un choix. Ou parfois, c'est des articulations hors argent, par exemple, mais c'est comme si on dessinait sur le corps. Mon travail ne va pas être en expansion, ne va pas être sculptural vraiment, quoi. C'est plutôt quelque chose de bidimensionnel.
Des images aussi.
Oui, j'ai fait beaucoup d'images à un moment donné, oui. J'en fais encore d'ailleurs, un travail d'image, et puis de couleurs. Et c'est des choix d'être assez bidimensionnel. Le corps peut porter des choses plus sculpturales, mais peut aussi porter des choses plus bidimensionnelles. Même si ça reste un objet, hein, ça c'est sûr.
Elle, lui. OSCC, BF Galerie. Jusqu'au 20 mai. Exposition Bijoux et Lumière, premier étage. Entrée libre tous les jours de 12 à 18 heures, sauf le lundi et les jours fériés. Et cette exposition qui se tient au SCC à Mons est une exposition de bijoux, mais éclairée aussi.
Ah oui, oui, c'était très important dans la conception de ce travail. C'était l'éclairage d'Henriette Michaud qui a fait appel à Cédric Jadin, qui a fabriqué les luminaires. Et ils ont fait un travail incroyable de scénographie. Ils ont compris tout de suite cette notion de lumière. Et quand on regarde l'exposition, moi j'ai l'impression que c'est les bijoux qui donnent leur éclat aux spectateurs. Et il faut vraiment s'attarder pour voir correctement le travail, j'ai l'impression en tout cas. Et Henriette a fait ça admirablement bien avec Cédric. Ouais. L'ombre participe. Il y a toute la partie du bas qu'Henriette et Cédric ont plutôt conçue dans les tons chauds. Et la partie du haut est éclairée plutôt dans les bleus, les tons un peu plus froids. Et là, il y a tout un travail d'ombre, il y a un travail d'éclat. Ils ont essayé de sentir, parce qu'ils ne viennent pas du bijou du tout, ils ont essayé de sentir, suite à des discussions qu'on a eues ensemble, etc., ils ont essayé de sentir chaque travail individuellement et le mettre en lumière. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un regard classique, je dirais, sur l'éclairage, parce que il faut s'attarder, il faut regarder longuement l'objet. C'est l'anti-rapidité du regard, voilà.
Enseignez-vous ?
À la faculté d'architecture de l'université de Liège.
Je donne un atelier et un cours sur la lumière. Et puis comme j'ai au départ une formation d'ingénieur civil, je donne un cours sur les matériaux, l'aspect plutôt sensible des matériaux, en bac 1, en première année. Et je travaille avec Henri Chaumont dans un atelier d'options qui s'appelle Structure, Espace et Expérimentation, où on travaille plutôt sur la structure et la réalisation réelle de bâtiments qui ne sont pas fermés thermiquement. Donc on ne s'intéresse pas à la thermique, mais ce sont des auvents, un préau d'école, d'abri pour des maraîchers bio. Dans le Condreau, maintenant on travaille une extension d'étable au Centre technique agricole de Stray. Et voilà. Et dans ce cadre-là, je donne un atelier lumière aussi.
Quand je vois votre atelier, Henri Michaud, je regarde au-dessus de la table, j'ai l'impression d'avoir affaire à la création de bijoux contemporains.
En fait, ce sont des toutes petites maquettes, les maquettes préliminaires aux luminaires que j'ai abouties ou pas, quoi. Mais voilà. Et comme j'y tiens, parce que ce sont les premiers gestes qui comptent, c'est inspirant, voilà. Ouais.
Mais quand je dis bijoux, ça vous convient ?
Oui, tout à fait. Bijoux à cause de la lumière du bijou aussi, Je trouve, oui. Ben, bijoux à cause de la nécessaire précision des choses quand on travaille en toute petite maquette comme ça. Moi, je dessine peu. Très vite, je passe en maquette. Et donc, je trouve qu'il y a bijoux, il me semble qu'il a différents rôles, mais il fait de la lumière aussi. Et là, je vois que les maquettes font de la lumière, quoi. J'aime bien ce rapport, cette interaction lumière-matière.
Pourtant, avoir interrogé Henriette Michaud et m'être rendu chez elle à Liège, j'ai pu constater que son atelier ressemblait étrangement à celui d'un bijoutier.
Ah oui, elle est incroyable, ouais.
Il y a ce qui est encore au stade du prototype, qui s'appelle Simone, et qui est faite donc d'un fil de fer cintré et d'une petite ampoule et qui s'allume par un simple clic. Bon, c'est pas parfait, hein, mais normalement par un simple clic, voilà. Et qui peut donner la nuit, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière ici dans l'atelier, mais la nuit, c'est une petite lueur, quoi, voilà. Donc je suis partie de ce prototype que j'ai exposé deux fois il y a 2-3 ans et sur lequel je vais retravailler. Et ça, c'est évidemment une lampe, une vraie lampe avec une source éclairage artificiel. Et l'idée serait de travailler, j'ai quelques amorces d'objets, mais je dois travailler tout le mois d'août pour ça, de travailler aussi et surtout la lumière naturelle, l'interaction de la lumière naturelle entre la structure et le médaillon de la lampe. Donc je pense imaginer différentes structures et différents médaillons. Voilà, tout est à faire encore.
Ah oui. Elle fait des lampes bijoux presque, enfin on peut appeler ça des bijoux, ça c'est vrai. Elle travaille l'éclat, elle travaille le verre, elle travaille... Ouais, c'est magnifique. Enfin moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et mais elle ne vient pas du bijou. C'est vraiment... En proposant le projet, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Henriette, tu veux bien mettre en lumière ?» Elle m'a dit oui, parce qu'elle a fait une carte blanche ici, une fois au SCC. Et d'ailleurs, elle m'avait invité pour cette carte blanche et elle avait fait un éclairage qui est une œuvre en soi, quoi. L'éclairage est une œuvre en soi, son travail d'éclairage est une œuvre en soi. Et très important dans cette exposition-ci aussi. Vraiment, ouais.
Je suis psychologue clinicienne de Budapest, c'est ça l'accent terrible. Et puis je suis aussi psychanalyste jungienne, donc tout ce qui travaille sur le symbolique, le système symbolique. Et puis je dirige une école d'art-thérapie, donc je travaille beaucoup au niveau d'art-thérapie. Tout ce qui est de métamorphose et transformation, tout ce qui est d'expression. Donc pas du tout quelque chose qui est académique. Pas besoin de savoir dessiner, danser, c'est surtout d'expression. Et je travaille beaucoup dans le domaine de l'art intime. Je pense que c'est ça où je suis concernée de ce qui se passe ici.
Vous allez voir également Sheila Kemenzai, qui est l'invitée d'honneur aujourd'hui et qui est évidemment la conférencière, l'acteur principal de cette journée.
Qu'est-ce que j'appelle l'art intime ? C'est ce qui... ce qui semble être non partageable, et pourtant quelque chose se passe.
Sheila Kemenzai est une psychanalyste, psychologue et art-thérapeute, psychanalyste jungienne, comme elle le dit.
Je pense que c'est exactement les choses dans lesquelles nous sommes communes, autant de bonne santé ou de pas bonne santé. On a tous une partie intime, et cette intime, à travers de cette intime, on peut vraiment rencontrer avec l'autre.
Une fée ou une sorcière ? Une référence, oui. Je ne la connais pas, je ne peux pas travailler avec elle parce qu'elle travaille avec beaucoup de gens que je connais dans son travail personnel, quoi, de thérapeute, mais elle est fascinante, vraiment. Ouais.
Je me suis dirigée par là après l'art brut, parce que normalement le début d'art-thérapie c'était l'art brut. Mais je trouvais qu'avec le temps, autant que c'était magnifique au début, mais avec le temps, ça devenait très, très, très contaminé par la maladie mentale. Donc tout ce qui est pathologie, tout ce qui est la folie. Et alors je trouvais que ça n'est plus juste. Et que autant que quelqu'un en bonne santé ou a pas bonne santé, on a une intime, et cette intime, on peut dialoguer, on peut se rencontrer, on peut partager l'impartageable. Pourtant, c'est ineffable. Vous voyez, c'est ça que j'appelle l'art intime.
Derrière chaque mot qu'elle dit, il y a un univers de complexité, mais d'unité incroyable. Elle est d'une liberté. Oui, elle me fascine complètement. Oui.
Art intime, c'est faire quelque chose que l'âme peut comprendre et qui n'est pas nécessairement explicable rationnellement. Et qu'on peut ressentir.
Et cet objet que nous portons, que les femmes, que les hommes portent, qui s'appelle le bijou, de quel monde participe-t-il ?
Ben, il me semble aussi que ça fait partie de l'art intime. Ça fait partie, enfin, au moins une partie, c'est l'art intime. Après, on sait que les bijoux aujourd'hui, c'est beaucoup plus personnel. Que l'ancien temps, c'était quelque chose, un objet collectif. Anthropologiquement et ethnologiquement, c'est un objet collectif. Mais je pense que par l'évolution ou par la façon portée, par le rite qui entoure, il devient quand même une vécu très très intime. Même dans quelque chose de collectif, vous voyez.
On va se mettre en dessous de l'arbre parce qu'il pleut.
Et moi je coupe cela parce que je me sens que... Je vais couper. Je ne sais pas comment on coupe ça. Ah oui. Parfait.
Cette question de collectif, quant aux bijoux, vous pensez à la transmission
Oui, oui, oui. Donc il y a des parties. Il y a des bijoux, par exemple, qui sont transmis vraiment génération en génération. D'ailleurs, ils sont très, très particuliers. Il y a des parties qu'on transmet et il y a des parties qu'on prend avec nous dans l'au-delà. Depuis l'Égypte, en fait. Dans notre grand rite, donc autant la naissance, le mariage, donc l'union, le rite de passage d'enfant à adulte, autant de garçons que filles, il y a vraiment quelque chose de très très fort au niveau de marque. Donc ça veut dire quand même que c'est très très identitaire. Où ça peut devenir intime, tout en appartenant, d'appartenance, mais dans quelque chose d'intime. Et puis, on sait qu'il y a certains bijoux, en effet, qu'on donne à la lignage féminin, à la lignage masculine, parce que les hommes aussi, avec leur chevalier, le bac de chevalier, c'est quelque chose de transmis de lignage masculin, parrain ou père ou grand-père. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup intéressé la partie corporelle de bijoux, parce que dans quelle partie du corps qu'on met ? Et pourquoi là qu'on met ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, on voit beaucoup dans les contes et dans les mythes, parce que je suis dans notre technique, donc, qui est l'analyse des mythes corporels. C'est une méthode d'art-thérapie que j'ai fondée depuis 30 ans en Hongrie, à Budapest, en psychiatrie en premier lieu. On raconte beaucoup d'histoires. On raconte des contes, les mythes, les légendes, pour rendre accessible quelque chose qui est collectif, mais de la façon entendue, c'est complètement personnel. Donc c'est là où le collectif peut devenir intime et l'intime peut verser, retourner dans le collectif. Dans les contes et dans les mythes, il y a énormément d'histoires sur les bijoux, sur des perles, sur des couronnes, sur des habits, sur les ornements, sur des parures. Dans toutes les mythologies, c'est inépuisable. C'est très beau.
Vous allez voir également Sheila Kemenzai, qui est l'invitée d'honneur aujourd'hui et qui est évidemment la conférencière, l'acteur principal de cette journée.
Ah, au-delà de la mort, on dit qu'on met, notamment en Égypte par exemple, on met certains objets dans une forme rituelle qui sont des bijoux. Et on disait très souvent que c'est une communication avec les morts. Certains ornements, certaines parures portées, ça permet le défunt de communiquer avec les morts.
Ou bien le bijou se transforme en parfum.
Ah, ça c'est un lien terrible, oui. Parce qu'entre le bijou et le parfum, il y a un énorme lien. Vous voyez les parfums, on peut mettre le même parfum, on ne va pas sentir la même chose. Donc on a une alchimie, on a vraiment une alchimie qui s'opère quand les personnes mettent quelque chose de juste. Il y a un rapport particulier avec le temps, entre le bijou et le temps, et le parfum et le temps. C'est un parfum... il est éphémère, sauf que s'en souviennent. On s'en souvient toute notre vie, certains parfums.
Jean-Claude Helena, le parfumeur, m'a décrit le parfum comme un toucher à distance.
Ouais. Ouais, et le bijou, c'est comme une parole sans langage. Ouais. Ça dit beaucoup de choses.
Une parole sans langage.
Mmh. Il y a dit plein de choses, sans dire un mot.
C'est une parure.
Chacun l'interprète comme il le souhaite. Elle, lui, c'est peut-être une femme qui lui, grâce à un bijou, grâce au dialogue entre son corps et le bijou, permet de se dévoiler son intimité. C'est la lumière qui lui aussi, la pièce qui lui...
La grande partie, c'est initiation quand même. C'est des rites d'initiation, c'est d'identitaire. Il y a certainement une partie de séduction ou de narcissisme de départ, mais je ne pense pas que c'est la grande partie. En tout cas, pas plus que biologiquement nécessaire. Vous voyez ?
Et si on avance dans le monde contemporain, ou la question du piercing à court.
Ah oui, le piercing et le tatouage. Ben, la question du piercing, c'est toute une affaire. Parce que la question, c'est est-ce que c'est visible ou non visible ? Vous voyez ? Quand un piercing est visible, ça c'est pour crier et pour dire ce que les mots ne suffisent pas de dire. Quand c'est caché, quand c'est un endroit non visible, je pense que ça avait une... Ça avait un tout autre sens déjà au niveau d'intime.
Ce qui, lui, dans la nuit, s'appelle des lucioles.
Oui. Je crois qu'il y en a pas mal ici aujourd'hui. Tout est luciole, je pense, y compris les bijoux, qui laissent planer grâce à la lumière une ombre mystérieuse. On dirait parfois des monstres, on se retrouve un peu dans une sorte de forêt enchantée. Des lucioles aussi qui viennent des très fins luminaires qui ont été placés par Henriette Michaud et Cédric Jadin.
Lequel ?
Ben, révéler la partie chargée de sensualité, qui n'est pas la fascination et la séduction. Sa sensualité, c'est la sève du corps qui circule. C'était au pied. Ce n'est pas limité au génital, voyez ? Dans la sensualité, c'est l'âme qui danse. Qui est une autre dimension que le pur génitalité.
Donc, la danse participe de leur union.
C'est certain. D'ailleurs, pas mal des bijoux sont utilisés notamment en Orient autour de la danse, autour de l'expression. Que le mundra ou quoi que ce soit d'autre. Il y a le bijou en tant comme statique et il y a des bijoux en tant comme mouvement. D'ailleurs, quand vous mettez une boucle d'oreille, ça bouge. Donc, ça amplifie l'expression. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une bague qu'on pose sur un doigt. Quelque chose qui est pendentif, il vit avec la personne, il vibre avec la personne. Donc le mouvement et la danse est avec.
Est-ce qu'à vos yeux, le bijou est-il thérapeutique ?
Ah oui, bah oui. Thérapeutique dans la mesure, par exemple, des pierres. Vous savez qu'il y a la lithothérapie. Et il y a la lithothérapie, chaque pierre avait son énergie. Ici, notamment, l'histoire que j'ai choisie dans les milliers de contes, il s'agit d'une pierre rouge. Donc, oui, ça dépend de... Et alchimiquement, c'est vraiment différentes choses. Hein. C'est toute une évolution au niveau de métal. Oui, je pense que autant que la couleur, autant que, que c'est une pierre précieuse, que c'est une cristaux, ben, il dégage quand même certaine énergie. Et ça dépend d'où on met. Une cristaux mettre sur la thymus, c'est pas la même chose que mettre dans l'oreille.
Vous entendez ces cloches?
Ouais.
Et c'est quoi cette pierre rouge?
Il y a beaucoup de pierres rouges, hein? Mais c'est une histoire. C'est une histoire arabe. J'ai pris dans le pays arabe pour compenser la version grecque que je vais raconter parce que c'est... Nous sommes un système grec, mais les pays arabes sont très très riches aussi au niveau de leur symbolique. La pierre rouge, c'est, vous va entendre, la pierre rouge, c'est une larme qui tombe. C'est un goutte de sang qui, quand il touche la terre, devient une pierre rouge qui avait des particularités au niveau d'énergie, ce qu'il dégage, ce qu'il peut communiquer, ce qu'il nous invite à voir, ou entendre, ou sentir.
Et c'est tout?
C'est quand même plus long. Parce que ça finisse bien. J'ai pris une conte qui finisse bien.
Et ça finit comment?
Ben, ça finit comme la plupart des contes de fées. Que le méchant et le mauvais sont éliminés et les heureux des vrais et sincères trouvent un amour. Heureux et riches, à l'intérieur surtout.
Avec beaucoup d'enfants.
Cela n'est pas cité dans le conte. Nous, on dit ça, oui.
Ferenczi.
Ferenczi. Mm-hmm. Sándor Ferenczi. Thalassa. Oui, c'est une Hongroise. Un psychanalyste. Au départ freudienne, hein, mais on sait que il a quand même ouvert une horizon plus large.
Qui est lequel?
Ben, qui parle beaucoup de bioanalyse. Donc, il dit que dans notre inconscient, il n'y a pas que les pulsions refoulées, il y a aussi plein d'autres choses. D'où vient peut-être un petit friction avec le vieux Sigmund.
Vous connaissez bien?
Mon époque, oui. On enseignait à l'UNIF, on lisait en vrai, en hongrois, pas traduite. Oui. Et toutes les époques, hein, de Hermann, Imre Hermann, qui a fait beaucoup sur la confiance archaïque. L'agrippement, le réflexe d'agrippement de bébé. Et puis un petit peu d'autres personnes. Roheim, Kereni, tous. C'est des Hongrois.
Et Jung.
Ah, Jung. Oh là 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 là. Je pourrais parler des heures et des nuits, mille et une nuits.
Animus anima.
Voilà que la bague et le bijou reviennent, hein, et le parfum. Si.
Dites-moi.
Je dis juste que Jung, il me semble être mon très grand amour depuis très longtemps, et au-delà de la mort probablement. Non, j'ai découvert avec Jung vraiment un symbolisme unique, vraiment. D'ailleurs, tout le travail sur les contes et les mythes, c'est initié par lui, par Marie-Louise Saint-Franz et tous ces personnages autour de lui, en fait. et qui dit que, ben, à travers les mythes collectifs, les grandes mythes, on peut retrouver notre mythe personnel, voyez. Et que comme le héros ou l'héroïne chemine dans sa propre transformation, ben, l'âme humaine peut aussi cheminer et se transformer. Pour une mieux, pour une pire, ça dépend.
Vous allez voir également Sheila Kemenzai, qui est l'invitée d'honneur aujourd'hui et qui est évidemment la conférencière, l'acteur principal de cette journée. Sheila Kemenzai est une psychanalyste, psychologue et art-thérapeute, psychanalyste Jungien, comme elle le dit.
C'est un langage symbolique très particulier, Jung. Je pense très, très intéressante parce que quand même dans son livre rouge, vous voyez, il avait écrit lui-même ses rêves dans la période critique qui durait quand même longtemps, hein, qui durait quand même 4-5 ans, profonde, où il dessinait lui-même, où il faisait ses mandalas, il faisait à Küsnacht, il faisait dans sa tour, il faisait les petites constructions avec le morceau de pierre et tout ça. Donc c'est un grand homme, en tout cas à mes yeux. Et il dégage quelque chose, surtout à la fin de vie, quelque chose de l'humble, en humilité vis-à-vis de l'humanité.
Dominique Thomas, qui est non seulement une de nos artistes membres, mais qui voilà, travaille et qui est exposante évidemment ici, elle a créé ce qu'on pourrait appeler ici une sorte de signature, qui est une bague en réalité, d'une bague de forme ovale, on se demande comment est-ce qu'on pourrait la mettre, mais qui est traversée d'un fil d'or. Un fil d'or qui en fait est là pour décorer le corps, habiller le corps, lui donner une présence autre, lui permettre de luire autrement. C'est aussi pour ça que Claire a choisi Dominique Thomas. Alors il s'agit d'un fil d'or complet qui par l'ombre émise par la lumière donne l'impression d'une sorte de signature. En fait, on a l'impression d'avoir quelque chose d'abstrait, d'extrêmement dessiné. On a l'impression d'avoir affaire à un véritable dessin. Et pourtant c'est un bijou qui peut être porté, mais aussi à l'instar des bijoux contemporains, un bijou qui est aussi d'abord et avant tout un objet d'art. Je pense que tout n'est que contemplation face à ce style de pièce. Et ça n'est évidemment pas la seule.
Si moi je ne porte pas de bijoux, à vos yeux ça veut dire quoi ?
Libre d'exprimer ce que vous voulez. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de tiroir. Il y a celle qu'on ouvre à l'intérieur de soi. Ce qui est important, c'est l'authenticité. Et l'authenticité pouvait être... Peut-être que votre bijou n'est pas visible à l'extérieur, vous savez. Il y a plein de gens qui ne portent pas de bijoux. Et pourtant, ils ont un joyau, on appelle ça en français, oui, une joyau à l'intérieur, vous voyez. Mais il faut savoir voir. C'est pas nécessairement visible.
Donc, on retombe sur la question de la lumière.
Et de soi, oui. La lumière de soi. Mm-hmm. Cette densité qui n'est pas de l'augmentation, mais l'intériorité probablement. C'est comme des perles, vous voyez, le perle de cultive. Il fallait des milliers d'années pour que ça sorte de sa coquille.
Comme les pierres.
Alors, il s'agit des bijoux de Frida Dorfer. Il s'intitule Eierzeigen, voir l'œuf. Elle travaille sur la dualité de quelque chose d'extrêmement rigide, de guindé, de strict, au travers de cette coquille, cette demi-coquille qui est extrêmement travaillée par ce métal froid. Il s'agit tantôt de l'or rose, de l'argent, parfois pour d'autres pièces qu'on ne voit pas ici. Alors, il y a cette dualité entre le strictement guindé, qu'elle associe de manière assez clichée, on va dire, au masculin, et puis quelque chose d'extrêmement féminin et qui vient de la texture du métal qui a été finement gravé, en fait, avec des motifs beaucoup plus ondulants, beaucoup plus féminins, donnant l'impression de quelque chose de velouté.
Vous venez de Liège ?
Oui, je travaille à Liège. L'institut est à Liège, l'institut Athanor, on appelait Athanor. Pour la en mémoire de métallurgie liégeoise et en pensant l'Athanor, le four alchimique, qui est comme un lieu de transformation possible.
Et c'est vous qui connaissez bien Henriette Michaud, ou Henriette Michaud vous connaît bien?
Oui, c'est ça, on se connaît. Elle vient quelquefois de... Enfin, assez souvent, elle vient aux conférences que j'organise, où on organise des conférences parce que j'ai une fâcheuse tendance à raconter des contes et des mythes et croire qu'il ne faut pas perdre ça. Donc, régulièrement, tous les deux mois, je raconte une histoire, je raconte une mythe, je prends une image sur laquelle je m'acharne pendant 4 heures. Et elle a déjà survécu quelques-unes.
Et rappelez-moi votre nom.
Mon nom, c'est Kemensei. Et mon prénom, c'est Chilla. Oh, c'est absolument hongroise.
Chilla Kemensei est une psychanalyste, psychologue et art-thérapeute. Psychanalyste Jungen, comme elle le dit.
Budapest et Vienne ne sont pas loin.
Non. Mais entre deux, je préfère Budapest. À cause de son parfum. Et mes souvenirs.
En faisant ces pièces, elle s'est également inspirée des œufs de Fabergé, ces fameux œufs qu'on offrait aux tsars russes et aux autres rois de l'époque et qui invoquaient et évoquaient toute une série de choses, la richesse, la fertilité, toute la symbolique que tient l'œuf. Et ici, elle a choisi de n'en créer que la moitié. Et la moitié pourquoi ? Parce que l'autre moitié, c'est nous-mêmes qui la formons. C'est en étant sur notre propre corps que l'œuf devient œuf et prend tout son sens.
On dit finougorien, donc sibérienne. On a beaucoup de choses qu'on a ramenées de froid là.
Mais là où sont les chamans ?
Le chaman froid, parce qu'il y a aussi les chamans chauds. Oui, oui, il y a les chamans froids. Oh, oui.
La Sibérie.
Oui, Sibérie, la Mongolie. Oh, oui.
Vous êtes initiée ?
Non, mais j'ai été faire pas mal de voyages parce qu'après d'avoir fait mon psychologie clinique, j'avais fait l'anthropologie culturelle un peu et je faisais des recherches dans le culte d'ours, en toute la rituelle de d'ours, là-bas, en Sibérie. Donc j'étais quelquefois, oui. Comment dire, je sais monter une yourte toute seule.
Ce que les jeunes font aujourd'hui.
Oui, voilà.
N'est-ce pas?
Bon, après ils commandent sur Amazon, donc c'est pas tout à fait... Moi, est parfaite, mais vrai.
De culture, d'humanité, de cœur, de folie, de liberté.
Vous rencontrerez également Henriette Michaud, qui est la scénographe et en même temps designer luminaire de cette exposition, et qui sera probablement, peut-être, je ne sais pas encore, accompagnée de Monsieur Cédric Jadin, qui est son acolyte, fidèle acolyte, designer luminaire également, et qui a créé de superbes lampes design, qu'il appelle Pascal, et qui ressemblent à des petites grues de chantier très design.
C'était pas évident au sens où il fallait que cette lampe puisse s'orienter dans plein de sens, qu'elle éclaire des choses qui soient basses, suspendu. Et donc voilà, on a mis au point une petite lampe qui puisse faire ça.
Le thème bijoux et lumière, puisque la lumière c'est plutôt ma partie et elle les bijoux, j'ai dit oui évidemment tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans l'aventure. Donc elle a choisi les créateurs de bijoux dans son monde à elle et puis s'est posé la question de savoir comment on éclaire des bijoux, parce que de toute façon, que le thème soit lié à la lumière ou non, on doit les éclairer. Donc il fallait quelque chose en plus. Et donc, on a beaucoup parlé de la manière dont elle envisageait la lumière par rapport à un bijou. Et je sais qu'elle m'a dit à un moment donné, on ne marche pas de la même manière quand on porte un bijou ou pas de bijou ou un autre bijou. Donc l'être change, donc il rayonne autrement. Et ça, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est le rayonnement de l'être, évidemment, qui existe indépendamment du bijou. Dans la nudité, on peut rayonner aussi, évidemment. Mais je me suis dit, ah, ça serait bien peut-être d'essayer de montrer ce que le bijou peut donner comme rayonnement quand il est porté. Et donc, à travers la matière transparente, brillante, parfois un peu... nostalgique. Il y a des bijoux qui sont plutôt nostalgiques, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu ostentatoires, peut-être, voilà. Et c'est vrai que quand on porte ces bijoux, l'un ou l'autre, on est différent, l'être est différent, quoi. Ça m'a poursuivi tout le temps. Et puis après, mon boulot de metteuse en lumière, je fais jamais ça dans les expos, très, très peu souvent, mais le fait de bien voir la chose pour ce qu'elle porte de secret en elle, enfin... On pourrait reprocher à cette expo de ne pas assez bien voir, mais l'objectif, ce n'est pas le plein feu, c'était l'intimité de la chose, quoi, l'intimité de l'objet. Voir de l'objet, peut-être ce qu'on ne verrait pas s'il était sous un plein feu, voilà. Ah oui, 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 de nouveau, hein, on revient avec la louange maintenant, louange de l'ombre, oui, oui, oui. Oui, on a eu des surprises d'ailleurs, mais on a travaillé aussi avec l'ombre portée de l'objet et aussi de sa transparence, quoi. Ouais. Ouais, c'était une belle aventure. Ça, c'était beaucoup, beaucoup de boulot parce qu'on a travaillé avec les acteurs là, du SCC qui sont magnifiques. Et puis Cédric et moi, Cédric Jadin, à qui j'ai proposé d'installer ces lampes pour sublimer l'ensemble. Et c'était beaucoup de boulot, mais c'était très satisfaisant, quoi. On a eu beaucoup de joie à installer tout cet ensemble-là. Ouais.
En laiton, c'est très très simple, des petits tubes en inox, une base en inox également pour le poids, et puis des petites une rotule en inox et en laiton et un LED. Voilà.
Elle, lui, elle, c'est la lumière.
Ce qu'on veut. Elle, ça peut être la femme, mais ça peut être aussi la lumière.
Ou l'âme.
Voilà. C'est marrant parce que je le pensais vraiment, je me suis dit, bon, peut-être pas pousser le bouchon jusque-là, mais oui, c'est ça. En tous les cas, l'existence intérieure, comme ça, la perle de chacun, enfin, ou la perle de chacun, oui, qui est lui. Et puis le elle, lui, qui était beau aussi dans ce que le bijou suppose de séduction aussi.
Comme le parfum.
De parade, quoi.
Comme le parfum.
Parfum, oui. Oui.
Qui est un toucher à distance.
C'est ça.
Et le bijou, c'est...
Aussi, à toucher à distance, je crois. À toucher ou à regarder à distance. De toute façon, regarder, c'est toujours à distance, mais oui. Peut-être à toucher à distance, oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai été fascinée, maintenant je parle en tant que créatrice d'objets aussi, designer, mais j'ai été vraiment émue par le savoir-faire des créateurs de bijoux au niveau de la matière, de la mise en œuvre de la matière. J'ai retrouvé, et j'en ai parlé d'ailleurs avec les complices de l'expo, quoi. J'ai retrouvé avec beaucoup, beaucoup d'émotion ce que j'avais trouvé dans les fabules celtes. Il y a une exposition à Marimont il y a une bonne dizaine d'années, ou une dizaine d'années, et j'ai été... Je me demande même si je ne vous en ai pas parlé lors d'une autre émission, mais je ne sais plus. Et j'ai été effrayée de voir, en voyant ce travail des Celtes, à quel point on avait perdu la proximité à la matière. Eh bien, dans ces bijoux, il y en a qui sont c'est une performance, quoi. Une technique de la mise en œuvre de la matière exemplaire. Les dos des bijoux, c'est pour ça qu'on a retourné deux bijoux, je l'ai demandé, je pense qu'une exposition de dos de bijoux s'est déjà faite, donc il ne fallait pas le refaire ici, mais il y a un soin accordé à ce qui ne se voit pas. C'est émouvant, c'est magnifique, vraiment. Ah oui. Oui, c'est obligé, évidemment. Tout est petit, tout est fragile, et en même temps, ça tient quand même. Donc, c'est un art, vraiment un art, oui. Très, très beau.
Elle, lui, exposition au SSCBF Galerie à Mons jusqu'au 20 mai. Avec Ornella Lavacara, Gaëlle Cornu, Claire Lavandome, Sheila Kemensai, Henriette Michaud, Cédric Jadin. Et à propos de l'ouvrage édité par l'édition Art et Héritance et qui lui est consacré, Marie-Paul Art. Sculpture, peinture, orfèvrerie. Elle, lui, par Thierry Genicot. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.